Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'invité du 12-13 sur Souvenir FM, l'émission qui donne la parole à ceux qui font bouger notre territoire, qui agissent et qui s'engagent pour la culture, pour l'histoire et pour animer notamment le temps libre des retraités et des inactifs. Car aujourd'hui à Souston, nous avons le plaisir de recevoir Colette Bataille, animatrice du groupe conférence de l'Université du Temps Libre des Landes et de la Côte-Sud. Bonjour Colette.
Bonjour à tous et bienvenue.
Eh oui, bienvenue, merci d'être là. Avec vous en studio Colette, nous avons également Roland Delano, président de l'association Forestival, passeur d'histoire et contributeur aussi de vos cycles de conférences. Bonjour Roland.
Bonjour à tous.
Bienvenue. Et on a une troisième invitée, un petit peu surprise, on peut le dire, c'est Sophie Michelena, qui est également membre de l'association Forestival. Bonjour Sophie.
Bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue donc à tous les trois pour cette heure de discussion autour de vos activités respectives et de vos histoires à raconter. Avant de démarrer nos échanges, c'est tout de suite l'heure d'écouter les infos nationales et internationales. On se retrouve dans deux petites minutes.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine,
Souvenir FM
invite un acteur de votre actualité
dans le
12-13.
Et c'est parti pour votre émission quotidienne, l'invité du 12-13 sur Souvenir FM à Souston aujourd'hui. Donc nous sommes en présence de l'Université du Temps Libre des Landes et de la Côte-Sud et de l'association Forestival avec Colette Bataille, Roland Delano et Sophie Michelena. Alors messieurs, dames, à Souvenir FM, nous avons, vous savez, l'habitude de commencer nos émissions par une présentation des invités, par les invités. Donc nous demandons à chacun de nous exposer un peu leur trajectoire de vie, leur parcours personnel, tout ce qui a construit leur vie et qui les a amenés aujourd'hui à notre micro. Alors, qui voudrait bien se prêter en premier à cet exercice? Colette?
Si vous voulez.
Racontez-nous un petit peu votre histoire.
Alors écoutez, mon histoire, eh bien, elle est très simple. Je suis une Landaise de naissance puisque je suis née à Souston. Et par la suite, eh bien, mon parcours professionnel va être assez limité. Puisqu'à 25 ans, j'ai quitté les Landes et je suis partie sur l'île de Ré pour raisons professionnelles, parce qu'on m'avait toujours dit qu'il fallait que je suive mon mari. Et comme mon mari avait été muté sur l'île de Ré, eh bien, je l'ai suivi. Et j'ai intégré l'Office du tourisme de Saint-Martin-de-Ré en 1979. Et j'en suis sortie en juin 2009. À quelques jours près, c'est pratiquement l'anniversaire à laquelle je suis revenue, eh bien, dans mes Landes natales. Eh bien, depuis 2009, j'étais à la retraite et j'ai décidé, eh bien, un petit peu d'occuper mon temps libre. Et pour cela, eh bien, j'ai intégré, il y a une petite dizaine d'années, l'Université du Temps Libre Landes Côte-Sud.
Eh bien, très bien. Voilà, c'est quelque chose, effectivement, de super de pouvoir faire s'occuper et puis faire en sorte que les gens puissent s'occuper aussi. Merci pour cette présentation et puis pour ce que vous faites. On y reviendra un petit peu plus en détail. Roland Delano, dites-nous.
Oui, ben moi c'est un peu différent, mais c'est pas grave.
C'est-à-dire
que j'ai choisi les Landes il y a 54 ans et moi je pense que on gagne du temps dans la vie et beaucoup de vie si on arrive à choisir l'endroit où on veut vivre.
C'est vrai.
Et j'ai choisi la capitale à côté d'ici, Saubion.
Oui.
J'ai trouvé une vieille ferme qui date peut-être qui a le même âge que Notre-Dame de Paris. On en reparlera tout à l'heure. Et j'y suis très très bien depuis 54 ans. Et c'est en m'intéressant aux paysages, aux objets, aux livres, que j'ai appris à connaître les Landes. Parce que tout au début, je me souviens des jeunes Landais qui me disaient « T'es pas d'ici, t'as pas l'accent. » Et heureusement, je pouvais pas l'avoir. D'abord, je suis né breton à Paris et j'ai peut-être un petit accent parisien, mais sans plus. Et l'accent, ça fait partie de la culture. Il faut le rappeler à tout le monde. C'est très important l'accent et la vie, les objets, le patrimoine. Et je me suis intéressé à fond. Et maintenant, je suis très content de le transmettre.
De transmettre, eh oui.
Parce que la transmission, je pense, c'est le meilleur des métiers qu'on puisse avoir. Maintenant, à mon âge, j'ai des enfants, des petits-enfants. Et c'est super de pouvoir transmettre. Et je suis ravi quand je reçois les écoles et tout, dans mes expositions. Enfin, on en parlera tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure. Et puis, vous êtes là aussi à la radio pour transmettre une partie de votre savoir.
Bien sûr, absolument.
Et puis, je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, en tant que fils de professeur, je ne vais pas vous dire que la transmission n'est pas le plus beau des métiers. Vous avez tout à fait raison, Roland.
Ouais.
Le troisième mousquetaire de notre émission, si je peux m'exprimer ainsi, donc Sophie Michelena.
Oui, la petite d'Artagnan du Lot. Moi, je suis une basque-hollandaise, mais j'ai grandi à Tos pendant 18 ans. J'ai vécu une très belle enfance ici. Et ensuite, j'ai voulu ouvrir les yeux, les portes du monde. Et donc, j'ai vécu en gros 20 ans à l'étranger, au Canada et en Angleterre. Et je viens de revenir il y a 5 ans et je ne pensais pas revenir aux sources, mais je suis aux sources. Et ben, maintenant, j'ai envie de redécouvrir ce que ce sont les Landes, parce qu'on ne me l'a jamais vraiment appris.
Eh oui, de prendre racine.
C'est ça.
Eh bien, très bien. Voilà, les présentations sont faites. Donc, on est tous les quatre pour l'heure à venir. Merci, messieurs, dames. Alors, on va parler de plusieurs choses. On va parler de l'Université du Temps Libre, que vous représentez, Colette, évidemment. On va parler de la conférence que vous donnez aussi, Roland, dans peu de temps, mais de bien d'autres choses. Commençons par l'UTL. Alors, les universités du temps libre sont bien connues. Il y en a dans plusieurs territoires, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour celles des Landes et de la côte sud, Colette, ce qu'on y fait, ce qui est proposé tout au long de l'année?
Alors, en ce qui concerne l'université Landes-Côte-Sud, je dis bien Landes-Côte-Sud et pas forcément des Landes, puisque comme vous venez de le dire, il y a de très nombreuses unités au niveau de tous les départements. Alors moi, avant de commencer, je voudrais juste faire une petite mise au point, parce que souvent, lorsqu'on a des forums d'associations ou des réunions, on voit des personnes, lorsque l'on dit qu'on représente l'université du temps libre, ce mot « université » bloque.
Oui.
Parce que les gens s'imaginent que c'est une association qui est vraiment réservée aux universitaires et dans la tête de certains, peut-être à une certaine élite.
Oui.
Alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout cette chose-là, puisque les activités des universités du temps libre sont vraiment ouvertes à tout le monde. Et elles sont ouvertes à tout le monde parce qu'on a une très grande variété d'activités. On va avoir aussi bien des activités culturelles, effectivement, on le verra tout à l'heure au niveau des conférences, mais aussi on a des activités manuelles. On fait du scrapbooking, on fait beaucoup de choses avec ses doigts, on fait de la peinture, on apprend à faire beaucoup de choses. On fait également, bon, peut-être plus culturellement, des cours de langue, parce qu'on se rend compte que peut-être dans notre jeunesse à l'école, on n'a pas eu la chance d'apprendre ou l'anglais ou l'espagnol ou en ce qui nous concerne l'italien. Et arrivé à un certain âge, eh bien, on peut vouloir s'ouvrir à ces cultures. Et nous avons des cours de langue qui fonctionnent très bien. Et effectivement, à côté de ça, nous avons une partie conférence. Mais là, encore une fois, ce ne sont pas des conférences élitistes, ce sont des conférences qui sont vraiment ouvertes à tout le monde. Alors, nous avons deux catégories de conférences. Nous en avons une que l'on appelle l'histoire de l'art et qui a lieu, elle, une fois par mois à Vieux-Boucau. Et au travers de cette conférence, nous avons toujours en face de nous le même conférencier.
D'accord.
On a une chance énorme, c'est que c'est un passionné passionnant et qui vraiment accroche énormément le public.
D'accord.
Par contre, pour ce qui est les conférences patrimoine, nous avons une conférence par mois aussi qui a lieu à Tos, mais là, chaque mois, c'est un thème différent et un conférencier différent. Et c'est ce qui va nous amener, par exemple, au mois de juin, eh bien, avoir une conférence sur les cagots.
Ah.
Mais les cagots, eh bien...
Les cagots, c'est un peu le sujet du jour.
Voilà, les cagots, quelqu'un va en parler, quelqu'un qui est à côté de moi va en parler beaucoup mieux que moi.
Oui, mais je le réserve pour la deuxième partie, moi, les cagots. Roland, avant ça, j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir d'où vous vient... Alors, vous êtes collectionneur émérite, vous êtes reconnu quand même dans la région, donc pour donner ces conférences et pour être très intéressé à l'histoire, etc. D'où vous vient ce goût de l'histoire et notamment aussi des objets à collectionner? Ça doit être chez vous un véritable cabinet de curiosité, n'est-ce pas?
C'est, mais enfin, il y en a partout. C'est emmêlé, c'est enchevêtré. Je suis toujours à la recherche d'un local pour essayer de me ranger un peu tout ça, pour que ça serve plus facilement. Et d'où ça me vient? Ben, les gens me demandent, Roland, vous êtes historien? Certainement pas. Oui. Roland, vous aimez la guerre? Parce que je fais des expositions sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Je dis, certainement pas. En fait, ma passion avant tout, c'est la vie. Et la vie, ça englobe toutes les passions. Et quand je suis avec des ados, je leur dis, mais essayez d'avoir une passion, et si vous pouvez travailler dans votre passion, vous serez heureux toute votre vie. Comme le choix du lieu là où on a envie de vivre, oui. C'est important. Et je pense que tout ça, il faut le remettre au goût du jour avant que ça se perde complètement. Moi, j'ai connu autour de Paris, les grandes banlieues se monter, et ces gens-là, ben, on ne leur a pas amené le bonheur.
Ah oui, c'est vrai. Et puis,
c'est affreux ce qu'on a fait.
Oui, oui, oui. C'est un bon point que vous avez là, Roland. Et puis effectivement, c'est donc l'histoire de la transmission, et puis de la transmission, je dirais, par un système de vulgarisation, hein, qui ne va pas bien avec le mot université, vous l'avez bien dit. Mais...
Oui.
Bon, merci, messieurs, dames. On est déjà à l'heure de la première pause. Hein. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais on reviendra notamment juste après cette première pause musicale sur l'histoire fascinante des cagots. On se retrouve juste après. Et ça discute de l'île de Ré hors antenne, mais on reprend le fil de notre émission, messieurs, dames, en présence de l'Université du Temps Libre des Landes et de la Côte Sud, en présence de l'association Forestival, avec Colette Bataille, avec Roland Delanneau et avec Sophie Michelena. Pardon, je reprenais mes notes. Alors, Roland, on en était à votre goût de l'histoire et de la collection des objets. Vous nous avez pas tout à fait, tout à fait répondu à ma question sur la collection des objets. On n'avait pas trop de temps.
J'ai toujours aimé les objets. Oui. Je vous ai dit hors antenne que j'avais eu une petite brocante il y a quelques années à Biarritz, dans les années 70, mm-hmm. les très belles années là où on gagnait beaucoup d'argent.
À l'étrange glorieuse.
Tout à fait. Et les objets, pour moi, tous me parlent. Parce qu'un objet, il y a quelqu'un qui l'a imaginé, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué, il y a quelqu'un qui s'en est servi. Et vous voyez, l'objet, il traverse notre vie aussi. Bon, je vois dans mes collections d'objets, j'ai des objets très curieux. J'ai les plus vieux presse-purées qui puissent exister. C'est l'air tout bête, mm-hmm. mais c'était inventé par l'inventeur de Moulinex.
D'accord.
Et Moulinex, c'était le moulin express. Et un jour, il voit passer une femme dans la rue avec un Solex. Et puis ses employés avaient de plus en plus de véhicules motorisés. Il a dit, si les femmes ne pédalent plus, elles ne vont plus jamais tourner la manivelle. Et c'est là où il s'est mis à l'électrique. Vous voyez, les objets, ils vivent.
Hmm.
Et puis ils suivent leur temps.
Oui.
Et
puis on en fabrique beaucoup trop maintenant.
Beaucoup trop.
On a peut-être un peu perdu là. On a perdu un petit peu peut-être la réflexion que vous avez là en direct avec nous, qui est super intéressante, mais... Effectivement, un objet, ça se fabrique, ça ne fait pas que s'acheter et s'utiliser. Quoi. Oui. Ça se fabrique, on y réfléchit avant de le fabriquer, à comment on l'utilise, etc.
Voilà, et dans mes collections, j'ai énormément d'outils aussi. Oui. Et j'aime bien, quand j'ai des outils en grand nombre, enfin, en offrir aux gens qui vont s'en servir. Et il n'y a pas longtemps, j'ai croisé encore un gamin de 20 ans que j'ai connu avec ses parents quand il avait 7-8 ans. Et puis il me dit, Roland, tu m'as donné ma première canne à pêche.
Ah.
Et ça me fait plaisir, parce que moi, je sais qu'il s'en est servi, je sais qu'il va à la pêche avec son père, et ça fait du bien de savoir que les objets vivent. Pour ça, je vous dis, les objets sont vivants.
Mais merci. Merci pour cette tirade sur les objets. Alors Colette, le 11 juin prochain à Tos, il y a une conférence animée par Roland sur les cagots. Donc vous avez dit, elle était à l'ordre du jour depuis 3 ans. Pourquoi pour vous c'est important d'en parler de ces cagots avant qu'on rentre un petit peu dans le sujet et dans la définition? Pourquoi c'était important de la mettre à jour?
Alors au cours de nos conférences, on a souvent des contacts avec le public après la fin de nos conférences, et il m'est arrivé de demander s'il y avait des sujets que l'on essayait de voir ou d'interpréter. Et un jour est venu le mot de cagot.
Mmh.
Et j'ai dit comme ça, pour moi, une conférence sur les cagots, ce serait très intéressant. Et je me suis rendu compte très vite qu'en prononçant le mot cagot, il y avait deux possibilités. Soit on ignorait totalement ce mot,
oui.
Ou alors, quand on prononçait le mot, on m'a même demandé pourquoi voulez-vous faire une conférence sur ces gens-là?
Ah.
J'avoue que je n'ai pas très bien compris au départ, parce que dans ma tête, c'était clair. Et quand j'ai essayé d'approfondir un peu la question, eh bien, on m'a dit, vous allez faire tout simplement la promotion d'indésirables. Ah, très bonne
de
question.
De personnes indésirables, oui.
Qui sont les indésirables? Eh bien, dans la tête de certaines personnes, et je n'oserais presque pas dire encore de beaucoup de personnes à l'heure actuelle, les cagots sont des pestiférés. Alors qu'en réalité, vous le verrez au travers de la conférence que nous allons faire donc le 11 juin, ces personnes-là ne doivent pas être considérées comme des pestiférés, loin de là. Donc ça faisait 3 ans qu'on avait mis cette conférence à l'ordre du jour. Malheureusement, le conférencier qui était pressenti à cette époque-là n'a pas pu venir. Et pour moi, ça posait un énorme problème parce que ma petite idée, elle était toujours au fond de ma tête et je voulais cette conférence sur les cagots. Et tout simplement, eh bien, j'ai découvert que quelqu'un qui n'habitait pas très loin de chez moi, eh bien, était passionné par les cagots.
Et c'est pour ça que
Roland Delanneau, eh bien, le 11 juin, nous fera une conférence à Tosse, à la salle Marraine, à 16h. Donc, je vous invite tous à venir découvrir ce que sont les cagots et non pas des pestiférés.
Alors, qui sont-ils, ces cagots? Pourquoi méritent-ils qu'on parle d'eux? Est-ce que c'est une spécificité, Roland, régionale ou est-ce qu'il y en a un petit peu toujours eu sous différents noms ailleurs? Qui sont-ils?
Non, il y en a eu un peu. Il y en a eu un peu partout, surtout dans le sud de la France, mais on a trouvé des caqueux en Bretagne, qui étaient les cagots bretons. Mmh. On a trouvé des agots dans le Massif central. On a trouvé des crétins qui ont été qualifiés de cagots. En fait, c'était les crétins des Alpes, les crétins du Massif central. Tous ces gens-là, c'était par manque d'iode. Bon, dans les montagnes, il n'y avait pas d'iode. Et on s'est aperçu que dans les montagnes basques aussi, il y avait quelques crétins. Mais les Basques n'ont jamais connu ce mot-là et surtout ne voulaient pas l'entendre.
D'accord.
Mais il y en avait. Et il y en a eu un peu partout. Donc les cagots, ça a été des exclus depuis le début. Les gens dont on voulait se débarrasser. Alors, on a dit au départ qu'ils avaient la lèpre, que c'était des descendants de lépreux. Donc c'était facile. Beaucoup de gens qui voulaient se cacher, allaient se cacher dans les ladreries. Les ladreries sont les hospices pour lépreux, qui étaient tenus par différents corps religieux.
On appelle ça aussi des lazarets dans le sud-est.
Voilà, des lazarets dans le sud-est, parce que c'est le disciple Lazare qui avait été condamné à avoir la lèpre, lui et sa descendance, par le Christ. Et c'est très curieux, le mélange entre les cagots, la religion, les évêques défendaient les cagots. Mais le curé du village, non, parce qu'il était plus près du peuple, donc il ne pouvait pas se permettre de prendre position dans ce sens-là.
Par populisme, quelque part. Mais ils étaient même, il y avait une entrée spécifique pour les cagots dans les églises de village, etc.
Tout à fait, il y avait une entrée spécifique. Il y avait même, on a trouvé des églises où il y avait juste une ouverture fenêtre pour eux, c'est-à-dire fenêtre sans vide, bien sûr, puisque ça n'existait pas. Mais il devait regarder ce qui se passait dans l'église de l'extérieur. Maintenant, la porte des cagots était souvent très petite pour qu'ils se baissent la tête et qu'ils se fassent de l'humilité, avant tout devant tout le monde. Les cagots ne devaient pas traverser le pays pieds nus, tout ça on le verra. Mais la punition, si le Seigneur pouvait, au fer rouge, transpercer les pieds d'un cagot qui avait osé marcher pieds nus. Les cagots qui osaient se servir de l'eau bénite réservée aux paroissiens, c'est pareil, il était exclu, banni et fouetté en public. C'était affreux tout ce qui lui arrivait. C'est pour ça qu'on les gardait bien à part, mais eux voulaient absolument s'intégrer.
Oui.
Donc ils savaient qu'ils avaient besoin de la religion pour s'intégrer.
Et bien sûr, à l'époque. Oui.
Voilà. Et beaucoup de gens ont choisi la religion et sont devenus cagots. Et à ce moment-là, on a décidé que les cagots, c'était des hypocrites. Parce qu'en fait, ils ne pratiquaient pas leur religion comme ils le devraient. Et donc, cagots et hypocrisie sont toujours en commun dans la tête des gens. Maintenant, la vraie histoire des cagots, ce sont les anciens Visigoths qui sont repartis. Quand Charles Martel a bloqué les Arabes à Poitiers, tous ces gens-là, tous ne sont pas repartis dans leur pays. Et ils ont traîné par ici. Les Pyrénées étaient difficiles à passer. Donc, ils traînaient autour dans les petits villages et tout. Et maintenant, on ne les voulait pas dans les villes, on ne les voulait pas dans les communes. Donc, ils étaient à l'écart du bourg toujours, souvent près d'une rivière. Il y a un livre très intéressant écrit par Paola Antolini qui s'appelle « Au-delà de la rivière ». C'est un des meilleurs qui a été fait sur les cagots, avec celui de Patrick Cursanté. Cursanté aussi, qui a étudié les cagots pendant des années. Bon, des livres sur les cagots, je dois en avoir une quinzaine. On en trouve de plus en plus, petit à petit.
C'est très lié finalement aussi aux espaces ruraux, à vous entendre. C'est-à-dire que vu que c'est une histoire de personnes reclues, on en retrouve beaucoup. En tout cas, c'est une histoire qu'on raconte dans les territoires ruraux, comme celui des Landes. On va poursuivre la discussion, messieurs, dames. C'est déjà l'heure de notre deuxième pause, où on se quitte un petit peu en musique et avec le flash info local. On se retrouve après, à tout à l'heure.
Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM.
Et nous sommes dans la troisième partie de l'invité du 12-13 en présence de l'Université du Temps Libre Côte Sud des Landes, qui donne une série de conférences, notamment sur la civilisation et le patrimoine. Conférences en partie animées par l'association Forestival en la personne de Roland Delano. Et Roland Delano, on parlait des cagots parce que c'est le sujet de la prochaine conférence qui aura lieu le 11 juin. On terminait la partie précédente sur une tentative de définition de cette catégorie de reclus finalement de la société, assez particulière, très présente dans les milieux ruraux notamment. C'était donc des personnes qui étaient discriminées, mais pour autant elles n'étaient pas inactives ni inutiles à la société. Ils avaient notamment le monopole des métiers du bois, ou ce genre de choses, mais pas
que.
Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'on avait trouvé que le bois ne transmettait pas les maladies. Donc les pseudo-lépreux, parce qu'ils ne l'étaient pas, avaient le droit de travailler le bois, ce qui fait qu'ils sont devenus très très spécifiquement spécialisés dans le travail du bois. Et toutes les charpentes des châteaux de l'époque du XIIe siècle, y compris surtout le château de Montanet qui était à Gaston Phébus, ont été construits par des cagots. L'église Notre-Dame de Paris, la charpente qui a brûlé il y a 5 ans, a été construite aussi par les cagots. On l'appelait la forêt. Maintenant, quand ils ont construit la charpente de Notre-Dame, ils ont choisi toutes les pièces de bois sur pied, dans la forêt. Alors, il y a eu, je ne sais plus combien, c'est 8 hectares de forêt enfin, qui ont servi à la charpente. Mais à l'époque, on ne faisait pas sécher le bois comme maintenant. C'était ce qu'on appelait le bois de brin. Et le bois séchait sur place, donc il fallait qu'il soit excessivement bien taillé, bien assemblé, pour pas qu'il y ait d'erreur par la suite. En séchant, le bois pouvait bouger, et surtout, il fallait pas. Maintenant, ils étaient aussi sculpteurs de pierre. On les a autorisés à sculpter la pierre, bien sûr. Les interdits, c'était surtout tout ce qui touchait à la nourriture. Ils n'avaient absolument pas le droit de toucher à la nourriture. Quand ils allaient au marché, il présentait un bâton pour dire j'aimerais bien un peu de ces légumes.
Ah oui, d'accord, il ne pouvait pas les palper sur l'étal, quoi.
Surtout pas. Et on les servait difficilement. Ils n'avaient pas le droit de circuler la nuit non plus dans les bourgs, dans les communes.
Comment était-il reconnaissable dans la micro-société ? Alors, c'était quoi, le nom de famille, où on savait que telle famille identifiée dans tel quartier, de telle commune, était cagot ou cagotte d'ailleurs ?
D'une part, c'est-à-dire qu'il faut savoir que tous les noms de famille viennent d'un nom d'endroit ou de métier.
Oui.
Ce que les gens souvent oublient. Et si vous voulez, bon, je vois, j'ai étudié un peu le coin des petites fermes tout autour d'ici. Le nom de la ferme a donné le nom à la rue. Mais avant, ils donnaient le nom aux gens de la ferme. Par exemple, les gens qui habitaient Mounique, on les appelait les Mouniques. Et puis, ça devenait leur nom de famille très facilement. Les cagots n'avaient pas droit à un nom de famille. Ils avaient droit à un prénom, point final, et puis éventuellement le lieu d'où ils venaient, quand ils changeaient d'endroit. Ils disaient, tiens, c'est un cagot de Tosse, on pouvait l'appeler Mounique de Tosse. Mais dans l'état civil, qui était tenu par les religieux à ce moment-là, il faut s'en souvenir, on oubliait tout ça, mais cagot, on le soulignait. C'était un cagot, il n'avait pas de droit. Il fallait faire très attention à tout ça.
On est à quelle époque là, au moment où les cagots commencent à être reconnus, identifiés et stigmatisés? Ça part de quand jusqu'à quand, grosso modo?
Ça a commencé sous Charlemagne, en l'an 800. Ouais. Mais si vous voulez, on n'a pas de preuves écrites trop. Maintenant, il y a des textes, il y a des choses. Pour moi, les cagots, ça a duré plus de 1000 ans, c'est sûr. Il y a des gens qui disent 800 ans. Il y a certains chercheurs qui suivent mon idée, parce que ça a duré très longtemps. Regardez, si au XIIe siècle, les cagots étaient capables de construire Notre-Dame, c'est qu'ils existaient bien avant.
Certes.
On peut dire, pour avoir ce talent-là, il fallait 3 ou 4 siècles
de savoir-faire.
C'est ce que je pense.
Est-ce qu'il en existe toujours ou des équivalents aujourd'hui? Ou quand est-ce que ce phénomène de stigmatisation sociale a commencé à péricliter ou a disparu? Ou est-ce qu'il en reste encore des petites traces? Alors peut-être
non, il reste des traces dans certains noms de famille, parce qu'il y a des noms de famille qu'on relève qui viennent des cagots. Maintenant, je me souviens quand j'étais gamin que j'allais en Bretagne chez ma grand-mère, il y avait l'idiot du village. Oui. Alors, l'idiot du village, c'était René Halou. Et les gens disaient aux enfants, fais pas le halou. Et c'était une personne qu'on n'avait pas le droit d'approcher parce qu'il était dangereux, soi-disant. Alors que c'était un type très gentil, normal et tout. On s'en est aperçu en grandissant. Mais l'idiot du village, c'est celui qu'on rejette. Et dans toute... Enfin, l'homme a toujours aimé avoir des souffres-douleurs. L'homme a toujours aimé avoir des gens qu'il pouvait dominer. Et ça, depuis toujours. Pardon.
Alors, Sophie voudrait réagir, par rapport à ça.
Là, je suis en train de bouger sur ma chaise parce que l'homme a toujours voulu. Et je trouve que ce qui est hyper important dans ce que vous faites tous les deux avec les associations, c'est de nous rappeler à nous qui n'avons peut-être pas lu tous ces livres ou eu accès à cette connaissance, que ce qui se passe aujourd'hui s'est passé aussi dans le passé. Et si on comprend tout ça, on pourra mieux défaire les préjugés et les discriminations qui existent aujourd'hui. Oui. Certainement pas sur les cagots de nos jours, mais sur tellement d'autres populations.
Sur des équivalents, bien sûr.
Oui. Mais ça fait
les cagots, c'est l'histoire de la discrimination au final.
Complètement.
Ben ouais.
Et qui revient petit à petit et très vite. Et on en parlera dans la conférence parce que c'est assez long tout ça.
Oui, vous disiez aussi hors antenne que pour vous, passionné d'histoire, vous mettiez un point d'honneur à la transmettre. La transmission fait partie aussi de votre ADN, on peut le dire comme ça. Mais que l'intérêt de l'histoire des cagots, c'est qu'elle est... alors, on peut la politiser, parce que l'histoire est souvent politique, mais c'est quand même qu'elle est apolitique, puisqu'elle parle à tout le monde et à toutes les époques.
Absolument. Mais je pense que le devoir de mémoire est très important. Et il ne faut rien oublier, parce que sinon, on le revit. Et moi, je n'ai pas du tout envie de revivre certaines périodes tristes de notre histoire.
Oui, vous aimez. Alors, vous êtes aussi, Roland, c'est peut-être le moment d'en parler. On ne va pas tout dévoiler sur les cagots, parce qu'il y a quand même la conférence du 11 juin à aller voir, bien sûr. Mais ça me donne envie de rebondir sur la guerre. Vous disiez, alors vous êtes un spécialiste, vous collectionnez les objets issus de la guerre, etc. Mais vous n'aimez pas la guerre, vous aimez la vie.
Bien sûr.
Et ça va dans ce sens-là aussi. J'ai envie de vous demander... parler de la guerre, ce n'est pas pour la glorifier, c'est pour se rappeler que ça existe et qu'il ne faut surtout pas que ça se reproduise.
Voilà. Oui. Et bon, ça vient de... Pour le bicentenaire en 2014, je regardais ce qui se passait dans les Landes, puis il n'y avait pas grand-chose. J'y tiens, avec mes objets, je vais faire une exposition sur la Première Guerre mondiale, au travers d'objets pour expliquer la vie de cette époque-là. Et puis, ça a eu énormément de succès malgré moi. Et tant mieux, mais les écoles sont venues, les écoles ont fait des dessins pour expliquer comment eux voyaient la guerre, et c'était très intéressant. Maintenant, je dis, si on oublie d'en parler, si on oublie tout ce que les gens... Il y a des héros dans la guerre, ils ne sont pas tous héros, mais il y en a. Et ceux-là, on n'a pas le droit de les oublier, parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et ça, il ne faut jamais l'oublier.
Sophie.
Oui, je voulais juste dire que moi, j'ai découvert l'association, en fait, grâce à l'exposition sur la Deuxième Guerre mondiale, qui est passée en mai de cette année. Donc, je suis toute récente dans l'association. Mais je l'ai découverte grâce à mon neveu de Tosse, qui est allé avec son école. Et c'est là la transmission aussi. En fait. C'est de par Roland jusqu'à un gamin de 10 ans et ça repart à une tati qui maintenant est
s'investit dans la vie locale et essaie de reprendre une forme un peu le flambeau, etc. Non, mais c'est sûr que c'est en faisant qu'on connecte les gens. On reçoit beaucoup à Souvenir FM, c'est un peu le but aussi de cette émission, l'invité du 12-13, c'est de recevoir vraiment, quand on dit en introduction les gens qui font bouger le territoire, c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment des gens qui s'investissent par l'action et après, si on n'agit pas, effectivement, on ne crée pas de situations dans lesquelles on peut se rencontrer, dans lesquelles on peut échanger et parler de choses diverses et variées comme les cagots, comme la guerre à ne pas reproduire, etc. J'ai repris un petit peu la main, c'est l'heure de notre dernière pause et on se retrouve quelques instants pour conclure notre émission. On aura 10 petites minutes de parole, on se retrouve tout à l'heure, merci à vous.
Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM.
Et nous voilà de retour pour la dernière partie de notre émission. Alors j'aimerais qu'on prenne le temps dans cette partie de conclusion, messieurs, dames, pour présenter un petit peu les associations que vous représentez. Et j'aimerais qu'on commence peut-être par l'association Forestival dont vous êtes le président Roland et dont vous êtes une nouvelle adhérente Sophie. Qu'est-ce que vous y faites et quelle est sa vocation à cette association? C'est le moment d'en faire la pub.
Elle existe depuis 1993 à Seignos et c'est une association qui a eu beaucoup de chance parce qu'au début, on avait la possibilité d'avoir la salle des Bourdaines, qui s'appelle maintenant le Tube. Oui. Et les Bourdaines, on l'avait pendant plus de 15 jours par an. Ça nous permettait de monter une exposition intéressante, mais toujours autour du bois, l'histoire du bois, l'histoire de la forêt, toutes sortes d'histoires. En 2006, il y avait un excellent inspecteur d'académie dans la région. Et grâce à lui, nous avons eu 2600 scolaires en une semaine. Ah, 2600 énorme. Scolaires, ça veut dire 600 à 700 tous les jours. Et on avait beaucoup de chance, et tout s'était très très bien passé, tous s'en souviennent. Il n'y a pas très longtemps, j'ai croisé un monsieur dans la rue avec ses enfants, et puis ils m'ont montré du doigt en disant « lui, c'est Roland ». Et le type traverse la rue et me dit « oui, depuis qu'ils sont arrivés en vacances, ils ne me parlent que de vous. » Donc c'était sympathique. En fait, ils parlaient de l'exposition, de ce qu'ils avaient vu.
Vous en organisez plusieurs avec l'asso ou c'est une fois à l'an, vous faites une grosse exposition?
Comme ça a changé, qu'on n'a plus les mêmes locaux.
Ah oui, c'est ça.
Maintenant, je fais des petites expositions intéressantes avec un sujet toujours. D'accord. Mais c'est soit sur le patrimoine landais, soit sur la Première Guerre mondiale dans les Landes, la Deuxième Guerre mondiale depuis 2 ans dans les Landes aussi. Et à chaque fois, c'est bourré d'anecdotes et ça plaît beaucoup parce que je suis sur place aussi, c'est important. Et c'est pour ça que je suis en train d'organiser ma relève.
Voilà.
Parce que et donc, il en est temps.
La présence de Sophie, où vous êtes tombée un peu sous le charme de cette association, du patrimoine landais, en lien avec aussi votre retour au pays, etc. Et donc, c'est tout ce que vous aimez, tout ce en quoi vous voulez vous investir, c'est ça?
Ben oui, moi je suis fascinée en fait du fait qu'on ne m'a jamais appris l'histoire de mon propre pays. Et là je découvre il y a quelques mois un monsieur qui veut transmettre et moi je veux apprendre et je pense que je ne suis pas la seule. D'ailleurs j'en ai parlé autour de moi à Tos et des gens qui disaient « Ah bon, il y a eu de la résistance dans les Landes ?» Mais on ne nous a jamais dit ça, ben non. Et l'histoire de la résine aussi. Enfin, Roland, il a collectionné tellement de choses. L'association a tellement de choses à apporter. Et moi, je vais essayer d'aider comme je peux. Parce que je suis aussi très intéressée par la transmission. J'ai été professeure, etc. Donc pour moi, c'est une façon de rendre au pays où j'ai grandi aussi.
Oui, je comprends. Et puis avant de pouvoir transmettre et raconter, il faut effectivement aussi apprendre soi-même. Hein. Donc c'est tout à fait louable d'être dans cette démarche. Colette, concernant l'UTL, je dis UTL parce que c'est Université du Temps Libre, que vous nous avez un peu présenté en introduction. Donc vous organisez toute une série de conférences, etc. On l'a bien compris. Quels sont les moments forts sur une année? On arrive à la fin du cycle, là, jusqu'en octobre, c'est ça, il ne va pas se passer grand-chose, et puis après, ce sera le retour des activités, je dirais, à partir du mois d'octobre. Je crois que vous organisez aussi... Alors, première question, vous organisez aussi des voyages, vous voulez peut-être en parler de ça? Quels sont les moments forts des voyages là, de l'année?
Écoutez, effectivement, comme je vous l'ai dit au début, l'UTL, c'est un panel très important d'activités, Et comme vous l'avez dit aussi, eh bien, il y a effectivement les conférences, donc on a déjà pas mal parlé. Il y a aussi des voyages.
Oui.
Alors, le principe des voyages de l'UTL, c'est de faire un à deux petits voyages par an. Alors, on appelle petits voyages, c'est-à-dire des voyages sur deux, trois jours, ou également des voyages d'une journée, que ce soit vers le Pays Basque, où là aussi on découvre énormément de patrimoine. Mais ça peut être aussi des visites d'exposition, des visites sur Bordeaux avec la base sous-marine ou autre. Mmh. Et une fois par an, il y a un grand voyage de plusieurs jours. Et là, eh bien, ils sont rentrés avant-hier d'un voyage, d'un séjour à Malte.
Oh.
Donc, c'est également aussi une activité.
La semaine dernière, il devait faire bon à Malte.
Ouais.
S'il faisait 36 ou 37 ici dans les Landes, à Malte, ça devait être quelque chose. Mais c'est super, d'accord.
Ouais. Et donc, effectivement, il y a cette partie-là qui est très, très importante. Et comme je vous l'ai également dit au début, c'est-à-dire que nous intervenons eh bien, dans d'autres activités.
Oui.
Je pensais, par exemple, il y a des loisirs créatifs, il y a du scrapbooking, il y a un atelier poésie que nous avons lancé il y a 2 ans et qu'on avait un petit peu peur que ça ne fonctionne pas. Et en réalité, les personnes sont très intéressées par la poésie. Nous avons aussi un atelier philosophie.
Mmh.
Et nous avons des cours de langue alors qui sont très prisés, que ce soit anglais, espagnol ou italien.
Et occitan, non ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas d'occitan parce que le
Il n'y a pas de demande.
C'est... Oui. Alors, c'est ce que l'on fait chaque année. On essaie de voir un petit peu quelles sont les langues qui souhaiteraient
ou
être...
même basque.
Oui. Alors, le basque...
Compliqué de trouver des professeurs
voilà,
qui veulent aller jusque dans les Landes pour donner des cours.
Compliqué de trouver des professeurs, mais je parle par expérience. Parce que moi, quand j'ai rejoint les Landes après mon expérience sur l'île de Ré, j'ai voulu apprendre le basque à l'Université du Temps Libre à Bayonne. Et je crois que toute ma vie, je me souviendrai du regard très condescendant de la personne que j'avais en face de moi quand il m'a dit « Mais est-ce que vous avez déjà parlé basque ?»
Ah ben pour apprendre une langue, il ne faut jamais l'avoir parlé, non ?
Et j'ai compris dans son regard, « Toi, ma petite, à l'âge que tu as, ça m'étonnerait que tu y arrives. »
Bon, mais en tout cas...
Donc, je n'ai jamais appris le basque.
Bon, une multitude d'activités proposées. Félicitations pour tout ce que vous mettez en place à l'Université du Temps Libre. On rappelle qu'il y a quand même, vous le disiez tout à l'heure, 484 adhérents.
Nous avons assez... Nous terminons cette année avec 484 adhérents.
Félicitations.
Ce qui est quand même pour nous très encourageant et un très beau succès. Nous avons les conférences Histoire de l'art où nous avons en moyenne au moins 170 personnes. Donc, comme quoi l'art attire toujours. Mais je pense que là, il y a l'attrait, comme je le disais au départ, d'un conférencier passionné, passionnant et qui sait transmettre. On parlait de transmission tout à l'heure. Et au niveau du patrimoine, eh bien, même si nos conférenciers sont très différents chaque fois, nous avons une bonne moyenne d'une cinquantaine de personnes.
C'est énorme.
Ce qui est aussi très agréable. Et alors là... cette année, nous avons ouvert notre histoire patrimoine, alors qu'à la base, on l'avait recentré sur le petit patrimoine local.
Là, vernaculaire.
Nous essayons un petit peu d'ouvrir vers d'autres horizons. Et là, je me souviens, il y a 2 mois, on a fait là aussi une grande découverte, une conférence sur le basque Elcano. Sur le basque Elcano. Et on a appris avec assez de surprise, tout le monde parle de Magellan qui a fait le premier tour du monde.
Ah, oui.
Et là, eh bien, on a eu une démonstration extraordinaire où Magellan n'a pas fait le tour du monde puisqu'il est revenu mort. Alors
c'est pas lui qui l'a fait, non, ça c'est sûr. Oui, il est mort aux Philippines, Magellan.
Voilà, alors que Elcano, qui était parti avec lui, il est revenu.
Il a fait tout le tour, oui,
donc, l'un a tout le prestige et l'autre on a tendance un peu
c'est le chef Lapu Lapu qui l'a tué aux Philippines
voilà.
Si vous voulez le détail de la truc.
Et là donc on a découvert beaucoup de choses, donc moi je vous invite si vous aimez bien vous divertir, si vous aimez apprendre, mais apprendre non pas de façon scolaire mais de façon très ludique, venez à l'UTL.
Eh bien, merci. On va finir l'émission sur ces beaux mots, Colette. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à l'émission, d'avoir donné de votre temps et de vos savoirs et de votre énergie à moi-même et puis évidemment aux auditeurs de Souvenir FM. Je vous souhaite la meilleure continuation qui soit. Et je vous dis à bientôt à tous. Adi Schatz.